un président de l'Afrique a été en trial pour a été en procès pour les crimes internationaux. Donc, à mon avis, le message, c'est très important pour les présidents en Afrique maintenant et pour les autres et pour les citoyens de l'Afrique, parce que tout le monde en Afrique connaît maintenant que si tu deviens un président ou bien chef de l'État, il faut que vous suivez la loi. Sinon, la loi vous rattrapera.
Il faut que vous suiviez la loi, sinon la loi vous rattrapera. C'était un chef d'État à la barre, Charles Taylor, devant le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Merci à Peter Andersen, Sophie Berda, Catherine Gambette, Vladimir Loyen, Solomon Moriba, Amadou Tejani Ba, Pascal Turlan, Asma Yacoubi. Merci également à Karine Hardy et Françoise Delignon de la Phonothèque des RFI et Émilie Trassante de la Phonothèque de l'INA. Sur les docks, Benjamin Bibas, Emmanuel Chicon, Yvon Croisier.
Savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, les Turcs décidèrent d'envoyer une ambassade à Paris dans des buts, dirions-nous aujourd'hui, d'espionnage industriel et dont le prétexte diplomatique était l'autorisation accordée à Louis XV par les Turcs de faire restaurer la coupole du Saint-Sépulcre. Influencés par l'ambassadeur de France auprès du sultan, le marquis de Bonnac, ils décidèrent de confier cette mission à Mehmed Efendi, et c'est l'histoire étonnante des rapports que l'ambassadeur du sultan entretint à Paris avec la cour que Gilles Weinstein nous a raconté dans la leçon que nous avons écoutée hier matin. Ce cours, consacré aux relations diplomatiques entre l'Empire ottoman et l'Europe, nous apprend que notre passé est souvent bien plus riche d'altérité qu'on l'imagine parfois. Gilles Weinstein a d'ailleurs publié en 1981 la traduction du compte-rendu que fit Mehmed Efendi de son voyage en France. Le livre s'intitule « Le paradis des infidèles, un ambassadeur ottoman en France sous la Régence ». Car Mehmed Efendi était un homme extrêmement intelligent et raffiné qui suscitait l'admiration des dames les plus exigeantes sur les qualités que devait posséder un homme d'esprit. Homme à la sociabilité si exquise qu'il trouvait même grâce aux yeux de Saint-Simon. Il était donc, à cette époque, le lien parfait entre l'Orient et l'Occident. Nous écoutons ce matin la suite de cette histoire.
En tant qu'ambassade, l'aventure de Mehmed Efendi eut certes ses lumières, mais elle eut aussi ses ombres. Côté lumière, il y a, comme nous l'avons vu la fois précédente, le comportement de l'ambassadeur, l'image qu'il a donnée, unanimement louée et répondant entièrement à l'idéal du parfait ambassadeur tel qu'il s'était imposé en Europe depuis le XVIe siècle et que plusieurs auteurs avaient théorisé par la suite. On le soulignait avec d'autant plus d'insistance que la constatation relevait du paradoxe, un paradoxe tantôt suggéré, tantôt plus explicité, et qu'on pourrait formuler ainsi: comment pouvait-on être turc et avoir, selon l'un des témoignages que j'ai cités, toute la galanterie d'un ancien courtisan de France. Côté lumière, toujours, et pour poursuivre l'étude de l'ambassade en tant qu'ambassade, il me reste à préciser comment l'envoyé du grand seigneur fut accueilli par les autorités françaises et par le public, tant à Paris qu'en province. J'ai déjà touché d'ailleurs à cette question du comportement des Français en attirant l'attention sur la tolérance de bienséance, ai-je dit, qu'ils ont réservée aux rites de l'islam tels qu'ils étaient appliqués par Mehmet Efendi et sa suite. Il faut bien voir que cette ambassade, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, était une initiative du gouvernement ottoman, ne correspondait pas à une volonté exprimée par la France. Et cette initiative tombait à un mauvais moment. En effet, la France connaît alors une période d'incertitude et d'instabilité institutionnelle. Nous sommes sous la minorité de Louis XV, qui n'a encore que 11 ans, sous la régence de son oncle, Philippe d'Orléans, et on procède, pour marquer la rupture avec le règne interminable de Louis XIV, à toutes sortes d'innovations qui se révèlent plus ou moins heureuses. Par exemple, on avait décidé, peu de temps avant l'arrivée de Mehmet Efendi, de remplacer le système des ministères par des conseils, ce qu'on appelait la polysynodie. Et comme ça ne marche pas du tout, on supprime cette innovation en août 1718 et on revient au système des ministères. Et je vais avoir l'occasion de vous citer quelques propos de Mehmet Efendi à ce sujet. D'autre part, il n'y a pas encore, quand l'ambassadeur arrive, de principal ministre. Dubois, l'archevêque de Cambrai, est le favori et en même temps souffre-douleur du régent, ne sera nommé principal ministre qu'après le départ de Mehmet Efendi. D'autre part, on est en plein dans les convulsions du système de l'eau, c'est-à-dire de l'introduction téméraire et qui va se révéler catastrophique du papier-monnaie. D'autre part, et peut-être surtout sur le plan proprement diplomatique, cette ambassade n'est pas en phase avec les orientations de la politique française du régent. En effet, le régent est soucieux de se mettre aussi bien que possible avec l'Angleterre pour le cas, et toute éventualité est à prendre en considération, où Louis XV, qui n'est encore qu'un enfant, avec ce que cela implique de fragilité, ne survivait pas. Dans cette hypothèse, il y aurait deux concurrents à la succession française, d'une part Philippe d'Orléans lui-même, et d'autre part, son cousin Philippe V d'Espagne. Dans cette perspective, aussi aléatoire soit-elle, le régent est soucieux de s'assurer l'appui de l'Angleterre. Et il entre dans une alliance avec l'Angleterre ainsi que les Provinces-Unies. Et cette alliance, en 1718, donc peu avant l'ambassade, est élargie à l'Autriche. Or, un rapprochement de la France avec l'Autriche ruine de facto ce qui avait été depuis l'origine le fondement même de l'alliance franco-ottomane. Et cette évolution avait d'ailleurs mis le marquis de Bonnac, l'ambassadeur de France à Constantinople, dans une situation extrêmement délicate vis-à-vis du gouvernement ottoman. Il avait dû chercher à convaincre le grand vizir que, je cite, ses liaisons avec l'Autriche ne devait donner aucune inquiétude à la porte. Au surplus, cette ambassade allait coûter très cher, qu'il s'agisse des réceptions ou des présents qu'on ferait à l'ambassadeur et à travers lui aux gouvernants ottomans, alors que les finances du pays sont au plus bas, le système de l'eau ayant d'ailleurs été une solution illusoire à ce problème financier. Donc, ces différentes considérations montrent bien que cette ambassade ne vient pas à un bon moment. Mais nécessité faisant loi, les autorités françaises, à tous les niveaux, aussi bien à Paris que dans les provinces, vont incontestablement faire le maximum pour recevoir l'ambassadeur turc et sa suite aussi bien que possible. Et faire, selon une politique ancienne consacrée sur laquelle j'ai déjà attiré l'attention, faire de cette occasion à laquelle qu'il n'avait pas sollicité une opération de prestige pour la France vis-à-vis de l'Empire ottoman et vis-à-vis des autres cours européennes. Et puis, c'était aussi une précaution élémentaire de tout faire pour ne pas risquer de compromettre les bonnes relations avec l'Empire ottoman pour ce qu'elle pouvait avoir d'utile et ce qu'elle avait des chances d'avoir de plus utile encore si un autre contexte international apparaissait. Et c'est bien ainsi que Saint-Simon a vu les choses. J'ai déjà eu l'occasion de citer plusieurs fois l'illustre mémorialiste à propos de cette ambassade. Eh bien, lui, expert, n'est-ce pas, en matière de distinction, présente cette ambassade de la façon suivante. Il n'en sait pas tout, il ne sait pas quels sont les véritables objectifs du gouvernement ottoman, mais son témoignage est intéressant parce qu'il illustre bien ce qu'a pu être la perception des milieux dirigeants français de cette ambassade. Le grand seigneur, écrit-il, avait nommé et fait partir un ambassadeur pour venir complimenter le roi sur son avènement à la couronne. Comme c'est une chose fort peu usitée à l'orgueil de la porte, et effectivement, comme je l'ai déjà dit, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu d'ambassade ottomane en France, notre cour, poursuit Saint-Simon, en fut extrêmement flattée. Outre l'honneur et la considération des lieux saints de Palestine, l'intérêt du commerce et de la bannière de France dans la Méditerranée ne contribua pas moins à en être touché. On fait donc le maximum pour bien traiter Mehmet Efendi et on prend pour base le protocole qui avait été observé précédemment pour les ambassades de Moscovie en 1685 et pour les ambassadeurs du Siam en 1686. Saint-Simon écrit encore, il fut magnifiquement traité et reçu. Et on peut le vérifier dans la relation de Mehmet Efendi elle-même, où il mentionne un grand nombre de réceptions et où il souligne tous les honneurs et attentions qu'on a eu pour lui. Et toute la littérature annexe d'origine française sur cette ambassade va dans le même sens. Alors il y a eu bien sûr les réceptions protocolaires de base, c'est-à-dire l'entrée solennelle de Mehmet Efendi dans la ville de Paris, l'audience du roi, l'audience du régent et à l'issue de l'ambassade, dernier épisode solennel, l'audience de congé de l'ambassadeur. Voici un tableau, plus exactement deux aspects d'un tableau célèbre l'arrivée de Mehmet Efendi aux Tuileries par Paroissel. Et puis, voici encore une médaille qui a été frappée pour commémorer l'audience solennelle donnée à Mehmet Efendi par le petit Louis XV. Partout, il est reçu par les autorités, on lui fait visiter tout ce qu'il y a de remarquable à voir, on organise pour lui des fêtes, des festins, des illuminations, à Paris et en province, comme je l'ai dit. Saint-Simon écrit encore, on lui donna des fêtes dans les villes les plus considérables, Lyon s'y surpassa. Et Mehmet Efendi dit lui-même, à propos de Lyon, en un mot, elle mérite d'être considérée comme un second Paris, j'y reçus tous les honneurs possibles. Et le Nouveau Mercure, le journal de l'époque, mentionne les, ce qu'il appelle, formule journalistique, les attentions polies des Lyonnais vis-à-vis de l'envoyé du grand seigneur. Il voit toutes les plus hautes autorités de l'État, sauf toutefois les princes du sang, puisque, nous dit-on, il n'est pas d'usage que les princes du sang reçoivent les ambassadeurs. Mais il y a une exception pour le comte de Toulouse, un bâtard, n'est-ce pas, de Louis XIV et de Madame de Montespan, non pas dans la mesure où il est prince du sang, mais dans la mesure où il est grand amiral. Il reçoit donc avec beaucoup de courtoisie Mehmet Efendi et l'ambassadeur lui rend ensuite sa visite. On lui décerne des honneurs exceptionnels, vous ai-je dit. À l'opéra, comme il l'écrit lui-même dans sa relation, chacun y a sa place selon son rang. On me fit asseoir à celle du roi, qui était couverte d'un velours rouge. Le régent y vint ce jour-là et se mit à la mienne. Il évoque également cette question si importante pour l'étiquette de la façon dont on est placé à propos de la représentation d'un ballet qui est donné au Louvre en son honneur. L'introducteur des ambassadeurs, en venant l'inviter à assister à cette représentation, lui précise « Si vos excellences y vont, elles y prendront beaucoup de plaisir, elles seront assises dans un même lieu avec le roi, sa majesté à sa droite, un endroit pour ses parents et pour les princes, et à sa gauche, un autre pour les ambassadeurs. Et comme chaque ambassadeur prend séance selon son rang, et que votre excellence doit avoir le pas sur tous, elle se trouvera placée auprès du roi. » Et Mehmet Efendi conclut « J'agrée la proposition ». C'est-à-dire qu'on lui accorde à Paris ce que la monarchie française tient à avoir à Constantinople depuis des décennies, c'est-à-dire la préséance, que son ambassadeur est préséance sur les ambassadeurs de tous les autres pays. Et il est intéressant de remarquer que dans ce parallèle qui est établi, dans cette symétrie à laquelle on vise sur le plan protocolaire, on ne fait aucune distinction entre l'ambassadeur de France à Constantinople, qui est un ambassadeur permanent, résident, et d'autre part, l'ambassadeur à Paris, qui n'est qu'un ambassadeur extraordinaire. Mais peu importe, la symétrie est établie. Autre honneur qu'on lui rend, pour compenser le fait que, à l'aller, pour le voyage d'aller de Mehmet Efendi, comme les autorités françaises avaient été prises de court, elles n'avaient rien pu organiser, et l'ambassadeur avait dû faire son long voyage maritime sur un bateau marchand. Alors pour compenser cela, à son départ, pour son voyage de retour vers Constantinople, on arme deux vaisseaux de la flotte royale commandés par des capitaines de cette flotte royale, les chevaliers de Camilly et de Nangis. En même temps, on se croit tenu de prendre certaines mesures de précaution par rapport à cette ambassade turque et à son installation pendant plusieurs mois à Paris. En fait, on ne trouve pas du tout de crainte d'espionnage militaire de la part de l'ambassadeur et de sa suite. Cette crainte qui s'était exprimée à l'occasion de l'ambassade de Süleyman Müteferrika en 1669 n'apparaît pas du tout cette fois, et même on fait visiter à Mehmet Efendi la fameuse collection de plans-reliefs des forteresses françaises, 125 plans-reliefs, qui avaient été commencés par Vauban. Cette collection étant alors installée dans la grande galerie des plans aux Tuileries, et elle est à l'heure actuelle, comme vous savez peut-être, au musée de l'armée. Eh bien, le chevalier d'Asfeld, qui est le directeur général des plans et fortifications, lui fait faire la visite. Et Mehmet Efendi a ce commentaire dans sa relation: il est constant qu'en examinant attentivement ces plans, on peut acquérir une parfaite connaissance de l'état de chaque place. Quoi qu'il en soit, on n'hésite pas à les lui montrer. En revanche, on prend un autre genre de précaution. On exile à Montbéliard, Montbéliard appartenait à cette époque au duc de Württemberg, un personnage du nom de Mustafa Aga, qui se prétendait membre de la famille ottomane, proche parent et même fils, disait-il, du grand seigneur Ahmed III. Et ce personnage, après toutes sortes de péripéties, avait fini par ouvrir à Paris une académie de jeu de dés dans son logement. Eh bien, selon un mémorialiste de l'époque, Jean Buva, qui tient son journal, Mustapha A souffrait qu'on le traitât chez lui de monseigneur, et que même on lui donna le titre d'altesse, non seulement par ses domestiques, mais aussi par des personnes qui le fréquentaient et qui allaient jouer au dé chez lui. Eh bien, on a pensé qu'il valait mieux éloigner ce personnage. Et ce qu'on craint le plus, manifestement, du côté des autorités françaises, c'est la suite de l'ambassadeur et les débordements auxquels elle pourrait se livrer. Voici ce qu'écrit à ce sujet Ledran, que j'ai déjà cité, archiviste des affaires étrangères, qui a composé une relation très détaillée sur le déroulement de l'ambassade. Les maisons de l'ambassadeur turc à Vienne sont toujours gardées de soldats, et l'on ne peut arrêter que par ce moyen la licence et la débauche excessive des Turcs. Le souvenir de ce qui se passa tous les jours à Paris, chez l'ambassadeur de Perse en 1715, vous voyez, il n'y a pas que les Turcs, fait connaître la nécessité de prévenir les sujets de scandale auxquels il est très difficile de remédier lorsqu'ils sont arrivés. C'est pourquoi on attachera un prix particulier parmi toutes les qualités qu'on reconnaît à Mehmet Efendi au fait qu'il sait tenir ses domestiques et toute sa suite. Sa suite, écrit Saint-Simon, ne commit pas le plus léger désordre. En fait, il y eut quelques incidents. Il y eut participation de certains membres de cette suite à des rixes du côté de la rue de Tournon. Il y a eu aussi une affaire très scabreuse du vol d'un plat d'argent, n'est-ce pas, dans le palais de Versailles. Et le fait que Mehmet Efendi avait quand même quelques comptes à régler avec certains membres de sa suite est illustré par le fait que, à son retour, une fois arrivé à l'étape de Tunis, il a fait débarquer un des membres de sa suite, et ce dernier a été exécuté. On devait donc considérer qu'il s'était rendu coupable, je ne sais pas exactement de quel délit, durant le séjour à Paris. L'attitude la plus frappante de l'ensemble de la société française par rapport à l'ambassade ottomane, et ce, aussi bien à Paris qu'en province, aussi bien dans les plus hautes couches de l'aristocratie que parmi les couches populaires, c'est la curiosité. Des foules extraordinaires suivent les moindres pas, les moindres déplacements de l'ambassadeur ottoman et de son entourage. Et ce qui se produit à l'occasion de l'ambassade de Mehmet Efendi n'est pas un phénomène nouveau. Il y avait déjà eu ce même concours impressionnant de curiosité lors de l'ambassade de Süleyman Müteferrika en 1669. À cette époque, en 1669, un rapport indiquait, comme les mœurs et les coutumes des Turcs sont assez différentes des nôtres, les peuples y couraient en foule, soit pour les voir manger sur leurs tapis étendus sur la terre, soit pour les voir faire leurs prières. Et cette curiosité restera aussi vive à l'occasion de la venue des successeurs de Mehmet Efendi. Voici par exemple ce que un de ses successeurs, pendant la période du Directoire, écrira dans son Sefaret Name. Il s'agit d'un ambassadeur à Paris qui s'appelait Morale Seyyid Ali Efendi, c'est-à-dire Seyyid Ali Efendi de Morée, n'est-ce pas? Eh bien, il écrit « L'empressement des hommes et des femmes de Paris à nous voir dépassait tout entendement. Non seulement le nombre de ceux qui allaient et venaient à notre demeure était infini et illimité, mais encore chacun s'est mis à chercher de nouvelles idées et de nouveaux prétextes pour nous faire exhiber. Il existait à Paris, à l'époque du Directoire, des jardins publics, mais qui tout public qu'ils étaient payants. Et un bon moyen pour les propriétaires de ces jardins, pour multiplier les entrées dans leurs jardins, était d'inviter l'ambassadeur ottoman à s'y promener. Eh bien, ce trait constant est très présent dans la relation de Mehmet Efendi. Par exemple, au moment où il monte vers Paris en empruntant le canal du Midi, ou canal du Languedoc, à peu près à la hauteur de Toulouse, il constate « Les Français étaient si curieux de me voir que lorsque j'étais sur le canal, il en venait de 4 ou 5 lieues à la ronde pour me regarder passer du rivage. Il se pressait quelquefois si fort par l'envie d'être les uns devant les autres qu'il en tombait dans l'eau. Lorsque je débarquais à une ville qu'on nomme Poix, écrit-il, il s'agit probablement de Mirepoix, il y avait sur le rivage une si grande foule de monde que les soldats ayant voulu les repousser et ne trouvant point d'espace pour reculer, un d'entre eux tua un homme d'un coup de baïonnette. Le frère de celui qui avait été tué s'avança aussitôt avec impétuosité en criant. Le même soldat le frappa aussi et lui fit une blessure dont il mourut la même nuit. Je pourrais multiplier les témoignages de ces attroupements extraordinaire et de cette curiosité absolument inextinguible que suscitait l'ambassadeur et sa suite. Lorsqu'il entre solennellement à Paris, comme je l'ai dit, il constate, quoique les rues de Paris aient assez de largeur pour contenir 6 carrosses de front, il y avait pour lors, en certains endroits, une si grande quantité de monde qu'à peine pouvions-nous passer 3 cavaliers. Toutes les rues étaient bordées d'espace en espace de soldats à pied et à cheval. Il y avait aussi des gens du peuple assemblés par troupes de 10 et de 15, de sorte qu'on aurait dit que tout Paris était venu voir mon entrée. Et il fait allusion à plusieurs reprises à la curiosité extraordinaire que manifeste à son égard, en toute occasion, cet enfant qu'est le jeune roi Louis XV, qui veut, qui ne se lasse pas de voir et de toucher les différentes pièces du vêtement de Mehmet Efendi. Et au contraire, la princesse Palatine, la mère du régent, écrit dans une de ses lettres « Je suis la seule de toute la maison royale qui n'ait pas été sur la place royale pour assister à cette entrée dimanche passé. Tout le monde se trouvait là, sauf moi. Et elle constate ma curiosité diminue. Ne pas être curieux de voir entrer l'ambassadeur turc, c'est vraiment ne plus avoir d'intérêt pour rien. Je ne peux pas insister parce qu'il faudrait que j'y consacre le cours d'une année entièrement sur ce qui fait la nouveauté et ce qui fit le succès de la relation d'ambassade de Mehmet Efendi et ce qui en fera un modèle pour le plus grand nombre des séfaretnamés ultérieurs et surtout des séfaretnamés consacrés à la France. Tous les ambassadeurs ottomans en France ultérieurs imiteront d'une manière ou d'une autre la relation de Mehmet Efendi. Cette relation se caractérise non seulement par l'enthousiasme avec lequel il évoque tout ce qu'il a admiré en France, c'est-à-dire aussi bien d'ailleurs des curiosités naturelles, des phénomènes naturels qu'il ne connaissait pas, je vais préciser dans un instant, que bien sûr les réalisations architecturales, artistiques, les jardins également, mais aussi les réalisations techniques. Et pour ce qui concerne ces réalisations techniques, il est tout à fait remarquable de voir comme il a su restituer avec beaucoup de clarté et beaucoup de pertinence toutes les explications qu'on a pu lui donner sur ces différentes réalisations techniques. Manifestement, il a très bien compris ce qu'on lui expliquait et comment ça fonctionnait. Alors, pour ce qui est de ces phénomènes naturels qui le frappent et dont il parle, il y a d'abord le flux et le reflux de la mer Océane qu'il a pu constater à Bordeaux, n'est-ce pas, et en particulier dans le cours de la Gironde. Et c'est la première fois qu'il voyait ça. Arrivé à Charenton, il était persuadé qu'un certain écho, j'ai justement un bon moment pour parler de cela, qui est un écho à 13 coups, eh bien que cet écho dont parlent Mercator et Ondius dans l'Atlas Minor se trouvait à Charenton. Donc, passant à Charenton avant son entrée à Paris, il insiste et harcèle tout le monde dans son entourage pour qu'on lui fasse entendre le fameux écho à 13 coups de Charenton. Mais personne n'en a jamais entendu parler et donc sur ce point il sera frustré. Alors bien sûr les beautés architecturales occupent une grande place, il a été conquis par la ville et la forteresse de Bordeaux alors qu'au contraire Toulouse ne l'a pas enthousiasmé et qu'elle lui est apparue comme, dit-il, passablement ruinée. Mais ce qu'il admire par-dessus tout, ce sont les châteaux et leurs jardins qu'il est amené à visiter. Et il parle de palais enchantés, de jardins charmants et construits d'une manière toute nouvelle pour moi. Il le dit à propos de Chambord, à propos des châteaux de Saint-Cloud, de Meudon, de Versailles surtout, le nom pareil, dit-il, de Marly, d'Écouen, de Chantilly et de Fontainebleau. Il admire aussi l'opéra où, dit-il, on représente une histoire comme si elle ne faisait que d'arriver. Et j'en viens à ces réalisations techniques auxquelles il s'est intéressé de si près. Eh bien, le clou de ces œuvres de l'époque de Louis XIV, c'est le canal du Midi, ou canal du Languedoc, n'est-ce pas, joignant la Méditerranée à l'océan, qu'il a été obligé d'emprunter, étant donné qu'ayant débarqué à Toulon, il n'a pas pu suivre l'itinéraire le plus direct, parce que Marseille et sa région étaient alors en proie à une terrible épidémie de peste qui est restée comme un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire de Marseille. Donc, il emprunte le canal du Midi qui avait été construit, permettez-moi de vous le rappeler, entre 1666 et 1681. Il admire également cette collection de plans-reliefs, c'est-à-dire de maquettes en réalité, des forteresses françaises, à laquelle j'ai déjà fait allusion, et il admirera également la fameuse machine de Marly. Il visite en posant toutes sortes de questions et en y prenant beaucoup d'intérêt les grandes manufactures créées par Colbert, la manufacture de tapisserie des Gobelins ou la manufacture de glace de Saint-Gobain. Et il s'intéresse encore aux institutions scientifiques du royaume, le jardin du roi, notre actuel jardin des plantes, avec son muséum d'histoire naturelle, l'observatoire de Paris, dont il donne une description, et il s'intéresse aussi à une institution hospitalière, les Invalides, créée par Louis XIV pour les soldats blessés ou âgés. Voilà un résumé évidemment très rapide de tout ce sur quoi l'ambassadeur s'étend avec plus ou moins de longueur dans sa relation. Mais ce qui est à noter, c'est la manière dont il présente tous ces éléments. En fait, toutes ces choses étonnantes, merveilleuses qu'il voit en France, gardent le statut de ce que, dans la littérature musulmane médiévale, on appelle les ajaïbes et les garaïbes, c'est-à-dire les choses merveilleuses, les choses étonnantes qu'on voit à l'étranger et qui sont le propre de l'étranger, qu'il n'est pas question de voir chez soi, et c'est ce qui fait leur intérêt et ce qui permet d'en éprouver toutes sortes de surprises. Ce sont des choses merveilleuses, des choses étonnantes, un peu comme les mirabilia de la littérature médiévale occidentale, mais qui sont des choses, encore une fois, d'un autre monde, qu'on ne considère pas comme pouvant appartenir à son propre monde. Et c'est bien ce qu'exprime aussi ce hadith prononcé dans les jardins de Versailles auxquels je faisais allusion tout à l'heure, le monde est la prison des fidèles et le paradis des infidèles. Il y a des choses merveilleuses dans le monde des infidèles, mais c'est le monde des infidèles. Et son attitude, la manière dont il présente les découvertes qu'il fait, est assez comparable, semble-t-il, à celle d'un autre ambassadeur musulman venu en France en 1682, l'ambassadeur marocain, cette fois, Mohamed Temim. Effectivement, j'ai parlé exclusivement des ambassades ottomanes en Europe à l'époque moderne, mais les ambassades ottomanes ne sont pas les seules ambassades musulmanes, n'est-ce pas ? Et des ambassades du Maghreb et notamment du Maroc ont été envoyées en France et dans d'autres pays européens à plusieurs reprises dans cette période. Eh bien, cet ambassadeur marocain, Mohamed Temim, a été lui aussi, une quarantaine d'années avant Mehmet Efendi, frappé par les réalisations de la France de Louis XIV, et il a composé un Kitab al-Ajaïb pour décrire ce qu'il a vu. Un livre des merveilles, un livre des choses étonnantes et merveilleuses. Malheureusement, cet ouvrage est aujourd'hui perçu. Mais cette manière de présenter les choses a pour conséquence qu'il n'est pas question ni de critiquer, ni de donner en exemple ce qu'on voit, ni surtout de faire des comparaisons entre ce qu'on voit et ce qui existe dans le pays d'origine. Donc il n'y a jamais dans la relation de Mehmet Efendi de comparaison, de hiérarchisation entre ce qu'il découvre en France et la façon dont les choses se passent dans l'Empire ottoman. Nous savons par quelques témoignages qu'il n'en allait pas de même dans les propos qu'il tenait oralement avec certains de ses interlocuteurs. Par exemple, le Nouveau Mercure, toujours lui, rapporte que dans une conversation privée avec l'abbé Bignon, responsable de la bibliothèque du roi, Mehmet Efendi avait reconnu la supériorité de la notation musicale occidentale sur la notation orientale, et il aurait dit à l'abbé que cette notation occidentale était plus commode. De même, voyant les bijoux de la couronne, il aurait avoué que son maître n'en avait pas de plus beau. Mais ce genre de comparaison ne figure jamais dans sa relation. Et néanmoins, malgré la prudence dont fait preuve Mehmet Efendi, dans sa relation, sinon dans les propos qu'il tient et qu'il tiendra également à Istanbul après son retour d'ambassade, ne l'ont pas empêché d'être critiqué par ses compatriotes à son retour. Et on le constate dans les remarques que fait le marquis de Bonnac sur la relation de Mehmet Efendi. Il écrit « Les Turcs sont si remplis de leur grandeur et les oreilles de leur prince sont si délicates qu'on trouva extraordinaire et même surprenant que Mehmet Efendi eût osé parler des beautés de la France et de la magnificence de notre cour dans les termes qu'il a fait dans un écrit qui devait être vu par son maître. Ceux qui l'ont vu et dont ceux qui ont vu cette relation et dont la vanité en a été offensée se sont dédommagés en disant que c'était des contes faits à plaisir. Mais pour Mehmet Efendi, poursuit Bonnac, il a continué à parler de même qu'il avait écrit, et comme il est grand parleur, il n'entretient encore ses amis et ceux qui l'écoutent que de la beauté de ce qu'il a vu dans le royaume. De même, il ne recommande jamais expressément, et c'est dans la logique de cette attitude qu'il prend dans sa relation. Il ne recommande jamais expressément de s'inspirer de ce qu'il voit, de le prendre comme modèle. bien que, rappelez-vous-le, bien que cela faisait partie de ses instructions, n'est-ce pas, de chercher ce qui pourrait être appliqué dans l'Empire ottoman. Mais pour ce qui est des réalisations les plus ambitieuses, comme le canal du Midi, Mehmet Efendi laisse entendre que, de toute façon, ce ne serait pas imitable. Il le laisse entendre en soulignant de façon très appuyée le coût énorme d'une réalisation comme celle-là. Et il donne des évaluations de ce qu'a pu coûter la construction du canal du Midi. Et puis, il souligne aussi que de toute façon, quand il va rapporter dans son pays ce qu'il a vu, on ne le croira pas. On nous rapporte que lors de son séjour en Languedoc, il dit par plusieurs reprises que ce serait une des premières choses, le canal du Midi, dont il rendrait compte au grand seigneur, mais qu'il était persuadé d'avance qu'on n'ajouterait aucune foi à son rapport et qu'on ne croirait jamais une chose aussi extraordinaire, de laquelle cependant il était le témoin oculaire. Donc, encore une fois, pas d'invitation explicite à imiter quoi que ce soit. Mais néanmoins, sa relation et les propos qu'il tient à son retour vont faire leur effet. Et on va effectivement, dans le milieu de cour autour du sultan Ahmed III, imiter ce qu'on a compris certaines des choses rapportées par Mehmet Efendi, mais uniquement dans le domaine du divertissement, de l'agrément, de l'aménagement des résidences et des jardins. Bonnac écrit, cet ambassadeur, depuis son retour de France, n'a point cessé de faire proposer au grand vizir diverses choses dans le goût de celles qu'il a vues dans le royaume. Et on a conservé une lettre adressée à son retour par Mehmet Efendi au maréchal de Villeroy, le gouverneur du jeune Louis XV avec lequel il avait eu de très bonnes relations. Eh bien, il écrit dans cette lettre, nous espérons aussi que vous nous enverrez les dessins des maisons royales et des jardins qui sont imprimés, lesquels vous avez promis. Et après l'ambassade de Mehmet Efendi, un des droguements, un des interprètes de l'ambassade de France à Constantinople, va être renvoyé en France, et à cette occasion, le grand vizir le charge de toutes sortes de commissions, de lui acquérir en France des choses dont il a entendu parler par Mehmet Efendi. Il réclame, nous dit-on, toutes sortes de raretés et de curiosités dont il a été question dans la relation et dans les propos de Mehmet Efendi. Lunettes, longue vue, microscopes, pièces d'anatomie en cire, des productions de la manufacture des gobelins, des montres à répétition, des commodes, des graines de fleurs, des oiseaux exotiques, en particulier des perroquets de certaines couleurs, et enfin toutes sortes d'estampes et de planches représentant châteaux, villes et jardins. Et de fait, il semble que le noir ait rapporté 1 000 000 d'estampes à son retour à Constantinople, et on en a retrouvé certaines dans les archives du palais de Topkapı. Et sous l'effet de cet engouement pour les châteaux et les jardins français, le sultan Ahmed III, qui avait une villégiature sur une petite rivière se jetant dans la Corne d'Or, ce qu'on appelle les eaux douces d'Europe, où, nous dit-on, il venait se divertir quelquefois à faire tirer du canon et des bombes, eh bien, Bonnac rapporte, Mehmet Efendi a proposé d'agrandir et d'orner cette villégiature et de profiter du lit de la rivière pour y faire un canal à peu près dans le goût de celui de Fontainebleau. Et cela, nous dit l'ambassadeur, a été réalisé avec une rapidité incroyable. Le grand seigneur a paru charmé de cet ouvrage. Les dames du sérail ont voulu être de la partie. Elles ont admiré une chose qu'elles n'avaient jamais vue ni imaginée et y ont trouvé une liberté pour la promenade qui, jusque-là, leur avait été inconnue. Cela a donné à Mehmet Efendi l'idée de proposer de nouveaux embellissements. On va prolonger le canal et y faire planter des arbres en forme de cour. Il faut dire que l'ambassadeur avait beaucoup admiré le cours La Reine à Paris. Mais au-delà de ces réalisations quelque peu frivoles, la principale conséquence peut-être de l'ambassade fut l'instauration en 1727 à Istanbul de la première imprimerie en caractères arabes du monde musulman. Et cette entreprise fut due à Saïd Efendi, au fils de l'ambassadeur, qui, en accompagnant son père à Paris, avait visité des imprimeries, et d'autre part à un converti d'origine hongroise, Ibrahim Muteferika. Donc, une imprimerie qui est en caractères arabes, qui est créée, qui veut s'inspirer de ce que le fils de l'ambassadeur avait vu à Paris, mais en même temps, il est frappant de constater que dans sa relation, Mehmet Efendi n'a jamais parlé d'imprimerie ni de visite d'imprimerie. Cette imprimerie, créée, comme je l'ai dit, en 1727, sera d'ailleurs fermée sous la pression de conservateurs en 1742 et elle ne sera rouverte qu'en 1784. Mais un des premiers ouvrages qui est imprimé par cette nouvelle imprimerie est précisément la relation d'ambassade de Mehmet Efendi. En décrivant, fût-ce sous le mode d'Ajaïb et de Garaïb, c'est-à-dire de choses merveilleuses et étonnantes, ce qu'il avait remarqué de plus impressionnant en France, finalement, Mehmet Efendi remplissait bien la mission principale et secrète qui lui avait été donnée par ses instructions. Mais le marquis de Bonnac, ignorant ce qui était l'objet principal de cette ambassade, a très sévèrement critiqué la relation de Mehmet Efendi en développant de différentes manières le thème que ce n'était pas la relation d'un ambassadeur. Ce n'était pas que les récits qu'il y faisait, les propos qu'il y tenait, n'étaient pas dignes d'un ambassadeur, sous-entendant que lui-même, marquis de Bonnac, n'aurait jamais composé sa relation d'ambassade de cette manière. Et d'ailleurs, on peut le vérifier, puisque on possède, et j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines d'y faire un emprunt, de la part de Bonnac, un mémoire au roi pour lui rendre compte de ce qui s'est passé de plus considérable dans son ambassade. Et évidemment, c'est fort différent de la relation de Mehmet Efendi. Voilà, voici ce qu'écrit Bonnac. On ne peut pas nier qu'il n'ait bien marqué beaucoup de choses qu'il a vues, qu'il ne les ait décrites presque toutes avec beaucoup d'exactitude et quelques-unes d'une manière assez fleurie. Mais il est surprenant qu'il n'ait rien dit au sujet de son ambassade, ni du génie de la nation, ni du caractère des diverses personnes avec lesquelles il a eu occasion de traiter, et que toute sa relation soit, pour ainsi dire, matérielle. Comme il a su que je l'avais fait traduire, je lui ai fait dire que c'était la relation d'un secrétaire et non d'un ambassadeur. C'est un jugement qui est en partie contestable, non seulement parce que, comme je le disais, finalement, Mehmet Efendi remplit bien ce qui était l'objet principal de sa mission, mais aussi parce que, quoi qu'en dise Bonnac, dans cette relation, il y est question des personnages avec lesquels il s'est entretenu. Certains portraits sont tracés, que ce soit celui du jeune Louis XV, que ce soit celui du maréchal de Villeroy, et surtout, mais je vais y revenir, parce que là, les relations ont été extrêmement mauvaises, que ce soit l'archevêque de Cambrai, Dubois, son interlocuteur naturel, puisqu'il était secrétaire d'État aux affaires étrangères. Et d'autre part, dans cette relation, quoi qu'en dise Bonnac, il est beaucoup question de protocole. Il est beaucoup question de la manière dont se sont déroulés ces moments forts de l'ambassade que sont les audiences auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure. Et c'est si vrai d'ailleurs que Bonnac a éprouvé le besoin de demander à Mehmet Efendi, quand il a pris connaissance de la traduction française de la relation, de couper un certain nombre de passages qui lui semblaient trop malsonnants. Et même quand il n'a pas fait couper certains passages, il a éprouvé le besoin de faire ses propres commentaires à lui, Bonnac, au jugement porté dans sa relation par Mehmet Efendi. Tant et si bien que grâce aux manuscrits qui ont été conservés, que ce soit à la Bibliothèque nationale ou que ce soit dans les archives du ministère des Affaires étrangères, quand on peut faire la différence entre ce qui a été le premier jet de la relation d'ambassade.
Savoir aujourd'hui le Collège de France avec Gilles Weinstein. Réalisation Thomas Duterre. Présentation Christine Goémé.
Bonjour, votre matinée sur France Culture. La Versailles, la fabrique de l'histoire par Emmanuel Laurentin. Cette semaine, histoire de Strasbourg. Et ce matin, un débat historiographique autour du particularisme alsacien et de l'histoire de son maintien avec François Higersheim, professeur d'histoire de l'Alsace, Michel Denecken, théologien, Jean-Marie Verling, juriste et expert du Conseil de l'Europe. 10 heures, les humanités, une vie, une œuvre par Mathieu Garrigou-Lagrange. Cette semaine, Gustave Flaubert, une apparition. Laissons-nous aller au vent de notre cœur tant qu'il enflera la voile, qu'il nous pousse comme il lui plaira, et quant aux écueils, ma foi tant pis, nous verrons, écrit Flaubert à sa maîtresse Louise Collet. Pour nous, c'est au vent de son œuvre que nous irons pour tenter de saisir le mystère de celui qui se sentait tout à la fois le désert, le voyageur et le chameau. 11 heures, question d'époque. Le jeudi, la Société des Nations par Madeleine Moukamabano qui évoquera le Proche-Orient et la conférence Annapolis avec des spécialistes de géopolitique. Et tout de suite, les matins de France Culture avec Ali Badou.
Bonjour à tous et bon réveil. 6h59 ce jeudi 29 novembre 2007. Un coup d'œil au sommaire de l'émission ce matin. À 8h20, notre invité sera le PDG de la FNAC, Denis Oliven. Il était chargé par la ministre de la Culture d'une mission sur la lutte contre le téléchargement illégal sur Internet. Et le rapport qu'il remettait vendredi à l'Élysée est aussitôt devenu un accord signé par les fournisseurs d'accès à Internet, les pouvoirs publics et les producteurs de contenu culturel. Riposte graduée dont on verra le détail tout à l'heure, les réactions chez les professionnels de la culture, les associations de consommateurs et les politiques. Denis Oliven viendra nous en parler donc à 8h20, à 7h15, les instituts français de recherche à l'étranger dans les enjeux internationaux. À 7h25, médias et journalistes, carte blanche à Géraldine Mühlmann. Et puis, petite précision, elle est importante, dans la fabrique de l'histoire, l'émission d'Emmanuel Laurentin, dès 9h, Jean-Marie Wörling, président de l'Institut du droit local alsacien mosellan, sera l'invité d'Emmanuel Laurentin. Il est 7h. 7h, le journal de Marie-Pierre Véraud. Bonjour.
Bonjour Ali et bonjour à tous. La justice dans cette édition, la justice et la police, alors que les deux corps sont traversés par un malaise grandissant. 1800 gendarmes et policiers seront réunis ce matin par le chef de l'État. Ils demandent plus d'argent. Les magistrats et avocats, eux, organisent leur grande journée d'action ce jeudi contre la réforme de la carte judiciaire, journée justice morte. La justice et la police encore avec les suites du drame de Villiers-le-Bel. Une information judiciaire a été ouverte. L'enquête devra déterminer les responsabilités alors qu'une vidéo tournée quelques instants après le drame a été dévoilée hier. La justice encore dans ce journal avec le procès Colonna, l'instruction sur le grill lors de l'audience d'hier. Nous en parlerons avec Laure de Vulpian. Et puis la justice sociale. L'enquête de l'INSEE montre un essor de la précarité entre 2000 et 2005 avec une stagnation des salaires. Ce soir, Nicolas Sarkozy doit s'exprimer sur le pouvoir d'achat. L'actualité à l'étranger, ce sera Moscou à quelques jours des législatives. Un nouveau coup de sang de Vladimir Poutine. Nicolas Sarkozy s'est fait procureur hier au sens propre comme au sens figuré. Figuré quand il a fustigé les criminels qui ont tiré sur la police et leur a promis la cour d'assises. Et puis au sens propre quand il a annoncé lui-même l'ouverture d'une information judiciaire à la place de la procureure de la République. L'indépendance de la justice une fois encore malmenée. Ce matin, c'est son costume de ministre de l'Intérieur qu'il devrait réendosser pour recevoir à l'Arche de la Défense quelques 1800 gendarmes et policiers. Et ils ont de nombreux griefs, Anne Lamotte.
On veut plus de sous, et si Nicolas Sarkozy ne parle pas de revalorisation salariale ce matin, on sera très en colère. C'est le message de l'UNSA Police, syndicat majoritaire chez les gardiens de la paix. Un jeune commence sa carrière avec 1 300 € net par mois. Enlevez-lui la prime de risque, il est en dessous du SMIC. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte, s'insurge-t-on à l'UNSA. Des sous, c'est aussi ce que réclament les officiers de police qui changent de statut et deviennent cadres le 1er janvier prochain. Les augmentations de salaire vont de 17 à 20 euros par mois. C'est ridicule, proteste le SNOP, premier syndicat chez les officiers. Il appelle à une manifestation nationale le 8 décembre. Quant à la gendarmerie, on parle de crise, horaires à rallonge, logement vétuste, effectifs insuffisants et là aussi salaire trop bas. Les gendarmes se sentent déconsidérés, négligés face aux policiers. Bref, Nicolas Sarkozy est attendu au tournant par les forces de l'ordre ce matin, d'autant plus attendu que parmi elles, certains ne sont pas passés très loin des balles à Villiers-le-Bel.
Villiers-le-Bel, justement, les violences apaisées pour la deuxième nuit consécutive, c'est bien l'enquête qui prend le pas. Une information judiciaire a donc été ouverte. C'était le souhait des familles qui pourront ainsi avoir accès à la procédure. Le juge d'instruction lui aura toute latitude pour convoquer les témoins, entendre les différentes versions, organiser des expertises. Car de nombreuses zones d'ombre doivent être éclaircies, notamment deux points cruciaux. Les policiers ont-ils ou non quitté les lieux peu après l'accident, avant l'arrivée des secours? Et quelles ont été les circonstances du choc? Le juge verra sans doute son dossier enrichi par une vidéo amateur, vidéo rendue publique hier qui semble contredire les accusations selon lesquelles la voiture aurait été dégradée par des jeunes en colère juste après l'accident. L'état très détérioré du véhicule de police serait dû à l'impact du choc. Pour autant, Thibaut Cavaillès, les questions demeurent.
D'abord, comment une si petite moto et deux adolescents peuvent-ils ravager de la sorte l'avant d'une Renault Scénic? Comment ensuite la motocross elle-même n'a-t-elle pas été plus endommagée que ne le montrent les images? Selon l'IGPN, les deux jeunes motards auraient percuté l'aile gauche de la voiture. Un tel choc aurait dû au moins faire plier la fourche. Visiblement, elle n'a rien. Considérons alors que c'est la voiture qui a percuté les adolescents sur le côté, les corps de Morzine et Laramie pulvérisant l'avant du véhicule. Ils ont été projetés à 20 mètres. Mais là encore, pourquoi la moto n'a-t-elle pas pu souffrir? L'autopsie des corps, les conclusions de l'expert technique devraient en dire plus, notamment sur le point d'impact exact des deux véhicules. Dernière possibilité sinon, remettre en doute les images. Et si c'était bien des jeunes avec des barres de fer qui avaient ainsi détruit la voiture avant l'arrivée des secours et du vidéaste? Honnêtement, il est difficile de croire que certains s'activeraient à de tels méfaits alors qu'agissent à côté les corps de deux de leurs camarades.
De tels méfaits, un témoin arrivé très vite sur les lieux, Ricardo, l'un des médiateurs de la commune, affirme lui à Ludovic Pitenu que les jeunes ne les ont pas commis.
J'ai été prévenu dès que ça s'est passé, j'ai dû prendre même pas 10 minutes pour arriver là-bas. Beaucoup d'agitation, beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, des insultes qui partent.
Est-ce qu'il y a des secours quand vous arrivez sur place?
Il y avait les pompiers déjà, j'étais déjà dessus, j'étais en train d'essayer de réanimer, il manquait plus.